Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En observant autour de nous certains échanges, nous percevons parfois certains signes, certains détails qui nous alertent et nous poussent à penser que décidément, entre eux, quelque chose ne tourne pas rond, que la situation est bizarre, voire malsaine. Des mots qui blessent, des remarques déplacées, trop d'insistance ou trop de silence. Alors comment expliquer cette lucidité de l'extérieur alors que la personne qui vit cette relation toxique ne semble, elle, pas en avoir conscience. Relation toxique dans la mesure où elle isole jalousie, culpabilité, dépendance, dénigrement. Relation qui fait mal sur le moment et peut avoir des conséquences à moyen terme dans la mesure où elle dévalorise l'individu, abîme sa propre image. Comment l'engagement et le respect, valeurs piliers de certaines cultures, peuvent parfois être dévoyés pour devenir autant de prétextes aux relations toxiques. Renoncer à nos propres envies, anticiper les réactions négatives, vivre dans une forme de peur permanente, comprendre, chercher des solutions pour en sortir, pour aider celles qui sont en situation de fragilité, pour trouver un appui, reprendre des forces lorsque l'on est soi-même concerné. Repérer les signes pour éviter de revivre la même expérience, répéter le même schéma, apprendre à dire « ça suffit », poser des limites, reprendre ses marques et peut-être réécrire une nouvelle histoire. Émission Questions de femmes en couple, au travail, en famille. Certaines relations peuvent s'avérer néfastes pour l'épanouissement, l'estime de soi. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Pour vous éclairer, répondre à vos questions, on vous retrouve, professeur Pape Lamine Faye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychiatre au CHU de Fan à Dakar, maître de conférences agrégé de psychiatrie et vous vous trouvez dans les studios de RFI en full des aimants d'un camp dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
C'est un petit peu la base, hein. Commencer bien sûr par définir ce qu'est une relation toxique, professeur Pape Lamine Faye, parce que toute relation conflictuelle, toute dispute, eh bien, c'est pas forcément issue ou provoquée par ce lien malsain très particulier.
C'est d'autant plus vrai qu'en général, quand on est en relation, il y a forcément des moments où il y a des crises, il y a des moments de désaccord, il y a des conflits. Mais la différence, c'est que ces conflits sont bien gérés, ces conflits sont gérés de façon saine, de façon empathique. Dans une relation toxique, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire l'autre, ce qui l'intéresse, c'est sa propre personne, c'est ses goûts, c'est ses envies, c'est le besoin de dominer, de contrôler la relation et d'en sortir seul gagnant. Et à un moment donné, l'autre protagoniste, effectivement, se sent mal, un mal-être qui ne s'explique pas au début et qu'il a besoin d'abord de comprendre, de bien identifier pour pouvoir s'en sortir par la suite.
Et c'est vrai que de l'extérieur, certaines personnes peuvent ne pas comprendre l'aveuglement d'une personne engagée dans une relation toxique. Comment expliquer le fait que le piège puisse se refermer sans que la personne victime n'en prenne conscience de cette réalité dangereuse pour elle-même et finalement ne réagisse?
Mais justement, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On peut être une personne extrêmement intelligente, pragmatique dans beaucoup de secteurs de sa vie. Mais là, ça concerne les liens affectifs. Ça fait qu'à un moment donné, on est complètement aveuglé, on n'a pas suffisamment de discernement. Parce que tout simplement, dans la première partie de la relation avec cette personne toxique, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, d'envoûtant et d'enivrant. Et finalement, on reste parce qu'on pense qu'on peut effectivement renouer avec ces moments exaltants. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas possible et on finit par partir de la relation parce qu'on souffre énormément et on met même sa santé en jeu.
Et professeur Pape Lamine Faye, ces relations toxiques dont on parle, eh bien, elles ne concernent pas simplement les relations amoureuses. Hein. Ça peut aussi se dessiner au travail, entre amis et puis bien sûr dans la famille.
Ça concerne tous les aspects de la vie de la personne, hein, aussi bien sur le plan privé, le couple, la famille, la vie professionnelle. Tout est absolument possible. À partir du moment où il y a une relation, d'où parfois il n'est pas toujours facile de partir, c'est généralement des relations qui peuvent devenir toxiques quand l'une des personnes elle est toxique. Mais il faut dire qu'une relation n'est pas toxique parce qu'il y a forcément une personne toxique. Une relation peut être toxique parce qu'on se fait du mal, en fin de compte, à cause de blessures qu'on n'a pas suffisamment identifiées pour y travailler.
Est-ce que c'est la personne qui est toxique ou est-ce que c'est la relation, au sens où une personne peut être absolument adorable, agréable avec les autres est complètement infecte avec son partenaire.
Les deux cas sont tout à fait possibles. Dans le cas de la personne toxique, c'est généralement une personne qui a deux visages, un visage social et un visage en privé dans l'intimité. Le visage social est tout à fait agréable, ça traduit des comportements qu'on aime en société. Et dès qu'elle est en privé, elle devient plus taciturne, plus désagréable et l'autre ne la reconnaît pas du tout. Et finalement, se pose énormément de questions. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand la personne qui est victime de cette personne toxique en parle autour d'elle, généralement, les gens ne comprennent pas. Et c'est là où c'est difficile si la famille n'est pas justement à l'écoute de cette personne qui est en train de vivre cette relation toxique.
Alors évidemment, il y a des blocages qui sont liés au contexte culturel. On pense au respect, on pense aussi à une valeur comme celle de l'engagement, de la loyauté. Et en contrepartie, si l'on met des freins, si l'on coupe, il y a un risque de rupture, de solitude qui peut mettre en péril de manière très violente la personne qui a décidé de prendre ses distances avec l'individu toxique. Je pense par exemple au couple, un homme qui va être malfaisant ou une femme. On décide d'arrêter et là, la famille ne comprend pas et dit « retourne-y, c'est toi qui fais erreur ».
C'est d'autant plus difficile pour celle qui vit cette relation toxique que justement la personne toxique va s'évertuer à la maintenir dans l'isolement, à couper ses relations, à faire en sorte qu'elle se retrouve seule vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis même de sa famille. Et donc la personne victime de cette relation toxique aura du mal à convaincre et elle se retrouve tout à fait seule.
Alors nos premiers témoignages tout de suite dans Priorité Santé, professeur Paplamine Faye. C'est le moment de notre palabre féminin recueilli comme chaque semaine par Charlie Dupio. Et elles sont deux autour de son micro, Dienaba et Annie. Elles ont 50 ans. Elles sont réunies par l'association Huraca Basiliade qui accompagne des personnes en exil sur des questions de santé. C'est dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est Dienaba qui commence.
Avant, il y a 2008, je me suis mariée ici en France. Mon mari, j'ai fait 2008, 2009, 2010, 2012. Il a retourné en Afrique, il a marié une autre femme là-bas, il m'a laissée ici, toute seule, avec mes problèmes, tout ça. Ça, c'est toxique. Je souffre ici. Il m'a laissée pour une autre femme. Moi, j'aime pas polygamie. Lui, elle aime polygamie. Moi, j'ai demandé divorce ici. Il est parti en Afrique. C'est trop dur. J'ai gaspillé mon argent, j'ai gaspillé mon énergie, j'ai gaspillé mon larme. Et maintenant, avec les hommes, c'est moi qui domine.
Elle ne peut plus donner cet amour-là à ces hommes-là par rapport à ce qu'elle a eu. Moi-même, je ne connais pas beaucoup de familles, puisque moi, j'ai fait presque ma vie à l'internat. Et après l'internat, je suis venue ici. Donc, ça fait 19 ans que je suis ici. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal. Bon, mais je ne sais pas si c'est toxique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal. Que j'ai même décidé de ne même plus continuer à aider parce que je ne peux pas mentir, je suis une femme à un grand cœur. Mais j'ai finalement compris que c'est ça qui me blesse, qui me fait mal. J'ai envie d'oublier tout. Je ne peux pas voir, je ne comprends pas comment est-ce que je vois quelqu'un dans la rue, je l'héberge chez moi et le lendemain, il me fait un truc que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Je suis chez moi. Cette personne vient me dire « Si, j'ai confiance à cette personne. » Elle vient avec l'attestation d'hébergement.
Vierge.
Tu comprends? Et elle me demande, j'avais tellement confiance à cette personne. Elle me demande « Signe là. » Moi, je l'ai fait. Et c'est là où, lui, il a pris cette attestation. Il a écrit tout ce qu'il pouvait écrire. C'est l'année dernière que j'ai vu un papier. J'ai dit « Mais comment se fait-il que je peux avoir un courrier où on dit qu'on m'héberge chez moi. »
Donc, sur le courrier, il avait écrit que c'était lui qui vous hébergeait et pas vous.
Et il m'a créé des problèmes. Ce n'est pas un ami, hein. C'est un frère camerounais comme ça. Je me suis dit, bon, ça pouvait être moi aussi. Et que quelqu'un croise dans la rue et ait pitié de moi pour pouvoir m'aider. Il a fait presque 3 ans à la maison. Toutes les charges de la maison, c'était moi qui payais, c'est pas lui qui payait. Moi, je l'aidais seulement. Il n'est plus chez moi. Ça m'a fait 1 an. J'ai dit, ah, enfin, un bon débarras. Je suis allée voir une psychologue par rapport à ces problèmes-là, à tout ce que je vous raconte, ce que je raconte là, au micro, tout. En dehors de lui, il y a une que j'ai encore trouvée toujours dans la rue, que j'ai fait semblant d'héberger, que j'ai essayé d'aider, j'ai essayé de montrer certains petits chemins. Mais dit que je peux encore traiter quelqu'un comme je faisais aux autres, non, c'est fini.
Vous n'aidez plus autant que ce que vous avez aidé.
Je ne voudrais même plus. Je ne voudrais plus être la mère Teresa. Je ne veux plus.
Témoignage recueilli par Charlie Dupio et on entend bien là un professeur Pape Lamine Faye. On parlait tout à l'heure des réactions sur le moment, mais aussi à moyen terme. Ces deux femmes, elles se sont senties trahies et elles ont durablement perdu le sentiment de confiance.
Oui, et généralement, c'est des gens qui se présentent à nous sous un masque vraiment serviable, sympathique, qui prennent des engagements avec nous. Et après, on se sent poignardé parce qu'on voit une autre personne. Et finalement, ce que ça amène, c'est qu'on est tellement traumatisé, on perd confiance même en l'humain. Et après, c'est un comportement de repli, mais aussi d'autoprotection.
Une première auditrice en direct maintenant. Pour ça, on prend la direction de l'Italie, où l'on vous retrouve. Vanessa, bonjour.
Bonjour.
Alors Vanessa, vous avez 33 ans. Combien de temps a duré cette relation que vous jugez aujourd'hui toxique ?
Elle a duré presque 5 ans. Mais j'ai pris vraiment du temps à me rendre compte que je m'enfonçais avec le temps de plus en plus.
Ça se manifestait comment, Vanessa ?
Déjà dès le début, j'ai subi des violences psychologiques, physiques, sexuelles, financières. Et j'ai su attribuer les noms à tous ces types de violences, disons après 4 ans de relation.
Je vais vous poser une question, je ne veux pas vous choquer, mais... Si cet homme vous disait des choses méchantes, si cet homme vous frappait, par exemple, au moment, au début, vous n'aviez pas conscience qu'il dépassait les bornes, que c'était insupportable et inacceptable ?
Pas tout à fait, parce que j'ai grandi dans un milieu où c'était assez toléré.
Est-ce que pour autant vous diriez que vous assistiez à la maison à des bagarres
oui.
Ou est-ce que votre père, par exemple, frappait votre
mon
mère ?
Mon papa, lui, il frappait mon maman, oui.
Et votre relation, elle a été donc ponctuée de mauvais traitements. Comment ça se passait ? Est-ce qu'à un moment donné, quand même, vous disiez « ça suffit » ?
Oui, je disais « ça suffit », je faisais l'effort de m'en défaire. Mais à chaque fois, cette personne me suppliait, il pleurait, il était en larmes, il m'offrait... des cadeaux, il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la dernière fois, je ne ferai plus jamais, parfois je perds le contrôle, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à changer, je vais être une personne meilleure. Et il fondait en larmes et tout ça, je continuais à accepter, à essayer d'aller de l'avant. J'espérais faire de lui une autre personne.
Et ces mauvais comportements l'ont même mené en prison. Hein.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui vous retenait à cet homme violent, voleur, violeur ?
À dire vrai, je ne sais pas. Je pensais qu'il m'aimait, je pensais que je l'aimais.
Comment vous considérez aujourd'hui cette Vanessa qui pardonnait tout ?
Je pense qu'elle était jeune, naïve et stupide. Parce que malgré des mauvais comportements, parce que quand j'y pense, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour tolérer tout ça pendant tout ce temps et continuer à vivre dans cet engrenage qui m'a vraiment...
Oui, mais en même temps, vous avez eu la force de dire stop. C'était quoi ce déclic ?
Alors, le mauvais comportement, la violence n'avait pas cessé. Et un jour, j'ai fait le bilan de ces 5 années passées. Je me suis rendu compte que c'était en fait toute ma vie qui défilait devant moi. Et donc, j'ai décidé qu'il était temps que je m'en libère. Et au final, ce n'est qu'avec l'aide de la police que je me suis débarrassée de cette personne parce qu'il a continué à me suivre, à me faire le stalking pendant 3 mois.
Ça veut dire qu'il vous suivait, il vous menaçait, il vous observait, c'est ça ?
Il me suivait, il me menaçait, il me suivait, il m'a parlé de moi partout, à mon entourage. Il disait qu'à force de pression, de me mettre la pression, il espérait que je continue à céder à...
Donc il a essayé de revenir dans votre vie. Cette image de vous abîmée au cours de cette relation toxique aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est derrière vous ?
Oui, elle est derrière moi parce que j'ai pris du temps pour reconstruire déjà les relations que j'avais perdues à cause de cette personne parce que pendant des années, je n'en parlais à personne.
Parce qu'il avait aussi fabriqué toutes ces murailles autour de vous, Vanessa. Vous avez une question à poser à notre invité, au professeur Pape Lamine Faye, qui a bien sûr écouté tout cet échange.
La question que j'ai à poser aujourd'hui, c'est comment reconnaître le profil d'une personne toxique. Parce que je pense que si j'avais été avertie, je n'aurais pas perdu toutes ces années et je n'aurais pas souffert autant. Mmh, mmh. Je pense que une des choses qui m'a aidée aussi lorsque je parlais à une dame, elle m'a dit attends Vanessa, lorsque tu t'aimes avec quelqu'un, il y a des signes qui ne trompent pas. Elle me dit, lorsque moi j'étais jeune, lorsque j'avais 23 ans, je fais la connaissance d'un homme, pendant un échange, il élève la voix et cette personne, je ne la verrai plus, elle ne me reverra plus jamais. Mmh. Et donc, je voudrais savoir s'il y a d'autres astuces.
C'est une forme de prévention, est-ce que vous demandez au professeur Paplamine Faye, prévention pour identifier ces personnes toxiques. Professeur, j'imagine déjà que vous voulez réagir à ce témoignage avant de donner des conseils en matière de comment éviter les toxiques.
Oui, déjà, féliciter beaucoup Vanessa pour ce qu'elle a vécu qui n'a pas du tout été facile. Elle a grandi dans un milieu où l'amour manifesté, démontré surtout sur un mode hostile. C'est-à-dire quand on aime, on peut frapper. Mais elle a su prendre le contre-pied de sa famille et ça, c'est très encourageant. Justement, dans ce genre de situation, il s'agit pour la femme de comprendre dans quoi elle est dans un premier temps. Et ça arrive quand on parle à un tiers extérieur, quand on lit un livre, quand on écoute un témoignage, quand on regarde une vidéo. Elle a compris que finalement, il y avait des droits pour la femme. On ne se met pas en couple avec quelqu'un pour souffrir. Et elle a commencé à ouvrir les yeux. Et cette discussion avec cette dame aussi l'a beaucoup aidée. Et finalement, elle a commencé à comprendre qu'elle devait prendre de la distance par rapport à ces relations qui lui faisaient du mal. Comment les reconnaître? Je pense que la première chose à faire, c'est de s'écouter. À partir du moment où, quand on vit avec quelqu'un, on a plus de moments où on est en souffrance. On a l'impression de marcher sur des œufs. On a l'impression d'être toujours en terrain miné, que tout le temps, il peut y avoir de la violence. C'est qu'on est dans une relation toxique. Et effectivement, il faut commencer à se poser des questions par rapport à la personne avec qui on vit et pas seulement se dire « Oui, je dois respecter mon engagement, je dois aller jusqu'au bout. » Non, on peut s'arrêter à un moment donné, se recentrer sur soi et se dire « Mais finalement, quel est le sens de cette relation si je dois souffrir ?»
Une question, Vanessa, est-ce que depuis, vous avez renoué une relation solide avec un homme ou pas?
Oui, j'ai une relation très solide même, je suis mariée.
Donc vous avez été capable de repérer cet homme qui vous fait du bien?
Oui, oui, bien sûr.
Et aujourd'hui, vous avez posé des limites?
Oui, oui, bien évidemment. Je pense même qu'avant cela, j'ai été beaucoup en alerte.
Vous étiez sur la défensive encore?
Oui, très, très.
En tout cas, on vous remercie infiniment pour votre témoignage, hein, Vanessa. Merci beaucoup parce qu'en plus, on va dire, l'histoire se finit bien. Et vous nous faites partager un titre. Vous êtes la première programmatrice de l'émission du jour. On écoute donc Charlotte Dipanda avec ce titre « Nos cahiers ». Et on vous retrouve bien sûr tout de suite après, professeur Paplamine Faye, avec d'autres auditrices en ligne.
Elle est passée l'époque de la cour de récré se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bombes des soirées. Avec les potes, on s'est bien marré. Et on avait du vice, nos parents nous cramaient. Depuis, on s'est amélioré. Où est passée ma bande, ma bande? C'est cette folie que l'on avait. Je l'ai perdue avec les années. Qu'avons-nous fait nos rêves? On s'était juré que rien ni même le temps ne nous séparait. Qu'avons-nous fait nos rêves? Les a-t-on aussi abandonnés comme nos cahiers? Sur les réseaux, ceux qui sont mariés, ceux qui ont vieilli, ceux qui n'ont pas changé. Les couples de l'époque qui sont restés soudés. J'ai la mélancolie des années écoulées. J'ai beaucoup moins d'amis dans ma nouvelle vie. J'ai la tête pleine, pleine de soucis. Aujourd'hui c'est à moi de fonder ma famille avec celui que j'ai choisi. Où est passée ma bande, ma bande? C'est cette folie que l'on avait. Je l'ai perdue avec les années.
Priorité santé sur RFI. Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons des relations toxiques. Toujours en compagnie du professeur Pape Lamine Faye, psychiatre au CHU de Fan à Dakar et maître de conférences agrégées de psychiatrie. Et c'est de la région parisienne que Grâce nous a envoyé ce message enregistré sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Grâce, j'ai 27 ans, je vis en région parisienne. J'ai toujours une relation compliquée avec ma tante, la petite sœur de ma mère. Tout simplement parce qu'elle n'a pas un bon comportement. Elle se mêle de la vie de tout le monde. Les membres de ma famille ne veulent plus lui adresser la parole aussi. Et ça a été mon cas pendant plusieurs années parce que j'avais l'impression qu'elle est là pour diviser. De tous mes frères et sœurs, personne ne veut rester avec elle. Personne ne veut lui adresser la parole. De peur qu'elle ne vienne s'aimer la zizanie dans notre petit cercle que nous avons créé. Et nous pensons que c'est mieux ainsi. Il y a quelques années, elle a invité ma sœur pour un repas avec son mari. Et elle a eu un écart de langage envers mon beau-frère. Ce qui a fait en sorte que ma grande sœur s'éloigne encore plus et mette vraiment des distances vis-à-vis de ma tante. Quelques années ont suivi, il y a eu une réunion de famille, et elle a manqué de respect ouvertement à ma mère, devant tout le monde, devant toute la famille. Lui traitant de tous les noms devant son mari et ses enfants. C'était vraiment horrible, désagréable. J'ai toujours pensé qu'elle était jalouse de ma mère. Après, je me dis qu'elle est nocive pour ma vie, mais nous partageons le même sang. Alors, comment continuer à former une famille si l'un des membres ne souhaite que diviser tout le monde ?
Alors, professeur Pape Lamine Faye, message de grâce, on entend la description d'une véritable semeuse de zizanie. Malgré tout, le respect, la tolérance, parce qu'on est en famille. On peut imaginer que beaucoup de personnes se reconnaissent dans cette situation. Quelqu'un dans la famille qui parle trop, qui parle fort, qui peut même se montrer méchant. Comment réagir dans ces cas-là ?
Je pense que la famille a eu l'attitude adéquate, hein, c'est de s'éloigner, éviter de lui confier des secrets, de lui dire des choses. Les gens se sont instinctivement et par mesure de prudence et de protection, ils sont instinctivement pris leur distance. Alors, une croyance qu'il faut vraiment démonter, quand on a des liens de sang, ça ne doit pas être une obligation pour se fréquenter forcément. Quand on voit qu'un membre de la famille effectivement est toxique pour nous, il ne nous fait pas du bien, autant effectivement s'en éloigner, on n'a pas tellement le choix. Surtout que peut-être la famille a essayé et peut-être cette grande sœur qui la connaissait depuis a peut-être voulu lui donner une seconde chance. Malheureusement, ça s'est toujours mal passé.
C'est pas comme dit l'expression « à la vie, à la mort ».
Pas du tout. Je pense que c'est une expression qui est totalement fausse et qui fait que les gens vont effectivement rester avec des croyances qui leur font plus de mal que de bien.
Et maintenant, on part pour Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Emma, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Alors, vous avez 32 ans, c'est avec votre meilleure amie, ou plutôt ancienne meilleure amie, que vous avez coupé les ponts. Combien de temps cette relation a-t-elle duré ?
7-8 ans. 7-8 ans.
Qu'est-ce qui vous attirait au départ chez cette femme ou chez cette jeune fille ?
Elle était plus ouverte que moi. Elle était gentille et elle avait beaucoup d'amis. C'était la différence.
C'était une fille attirante quand vous la décrivez. Et avec le recul, qu'est-ce qui, dans ses actes, ses agissements, vous semble aujourd'hui toxique ?
Pendant qu'on était amis, je la suivais partout. J'étais toujours collée à elle. Mais elle, parfois, elle disparaissait. Mais j'étais toujours là, à l'attendre. Ensuite, avec le temps, on avait progressé. J'avais trouvé un emploi. Et j'avais un peu changé physiquement. C'était là qu'elle commençait à me faire quelques remarques que j'étais un peu jolie, que j'avais une très belle couleur de peau.
Est-ce que c'était des compliments ou est-ce que c'était de la jalousie?
Quand elle le faisait, c'était par rapport à elle, pour me montrer qu'elle n'était pas ici. Mais moi, parfois, toujours, je la répondais qu'elle était très belle, qu'elle avait une très belle silhouette, mais je ne comprenais pas encore.
Et ça s'est très mal passé avec l'un de ses amis. Est-ce que vous pouvez nous raconter, si vous le voulez bien ?
Avec le temps, quand elle avait des amis, elle ne me les présentait jamais. Donc, jamais je ne fréquentais ses cercles d'amis. Et quand j'étais là, quand elle leur parlait, c'était toujours un catimini. Mais parfois, quand je remarquais cela, soit elle essayait de me rassurer ou bien je faisais semblant de ne rien voir. C'était la différence.
Et c'est allé jusqu'à la violence, hein?
Oui. Parce qu'avec le temps, quand on était amis, il y avait son petit copain qui avait fait une tentative de viol sur moi. Elle était la première à qui j'avais raconté cela. Mais elle n'avait pas bien réagi parce qu'elle avait pleuré, etc. Moi, je la consolais. J'essayais de la comprendre.
Finalement, ce n'était plus vous la victime, c'était elle.
C'était elle, parce qu'elle pleurait.
Et c'est allé jusqu'au procès, hein?
Jusqu'au procès, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Je me suis rétractée. Je ne sais pas, je me suis rétractée.
Pourquoi? Parce qu'elle a fait pression sur vous?
Parce qu'elle disait à tout le monde que j'étais folle. Je n'ai pas pu répondre aux autres, ni leur raconter, parce que je ne sais pas.
Est-ce que vous avez le sentiment, finalement, on entend vraiment relation déséquilibrée, puis on entend tout simplement de la méchanceté, que vous n'avez pas vu les choses arriver aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez même coupable de n'avoir pas vu les choses telles qu'elles étaient, de n'avoir pas vu les choses avec clairvoyance?
Oui, parfois je me reproche cela. Pourquoi je n'ai jamais vu qu'elle ne m'aimait pas? Mais cependant, elle sait que je l'aime.
Vous l'aimez encore? Vous l'aimez encore, cette amie?
Oui.
Oui. Professeur Paplamine-Faye, on entend Emma qui continue de se culpabiliser. Donc j'imagine que vous, ce que vous souhaitez faire, c'est vraiment la faire sortir de ce sentiment de culpabilité.
Oui, Emma, en fait, quand on vous entend, on entend quelque chose de contradictoire, hein, en vous. En même temps, vous vous reprochez de ne pas avoir reçu assez tôt qu'elle ne vous aimait pas autant que vous l'aimez, mais vous, vous continuez par contre à l'aimer. Moi, je pense que il ne faut pas idéaliser une relation à votre détriment. Une relation, pour qu'elle reste équilibrée, il faut d'abord la manière dont vous traitez l'autre, que vous aussi, vous revendiquiez le fait d'être traité de cette manière. Vous la respectez, vous avez beaucoup de bienveillance vis-à-vis d'elle, mais on n'a pas l'impression que c'est réciproque. Au contraire, c'est quelqu'un qui essaie toujours de vous rabaisser, de vous mettre derrière. Et chaque fois que vous avez des choses, elle est dans l'envie, elle est dans la jalousie, vous sentez même sa souffrance. Quand elle en parle, elle est presque en souffrance. Je pense qu'il faut davantage apprendre à vous aimer pour vos qualités. Si cette personne est restée avec vous et a commencé peut-être à vous complimenter, même si c'est sur un ton de reproche, c'est que vous avez des choses enviables à vous qu'il faut apprendre à valoriser. C'est extrêmement important. Parce que la manière dont se traite, c'est de cette même manière que l'autre va nous traiter. Si vous vous mettez trop en retrait, si vous l'idéalisez comme si elle avait beaucoup de choses que vous n'avez pas, c'est comme si vous vous traitez moins bien qu'elle. Pour que la relation soit équilibrée, apprenez juste à aimer ce que vous avez par devers vous. Et ce que vous aimez, peut-être que l'autre ne l'a pas. Et ce que l'autre a, vous ne l'avez pas. Mais de toute façon, on est là pour s'enrichir mutuellement. Mais ne vous écrasez pas, ne vous mettez pas en retrait, ne vous dévalorisez pas, ne vous sous-estimez pas. Continuez à vous aimer. Et si vous rencontrez quelqu'un qui n'agit pas comme ça avec vous, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Sinon, vous allez vous sentir davantage mal parce que ce que l'autre va vous renvoyer, c'est juste que tu n'es pas valable, tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, tu n'es rien sans moi. Et comme on dit, on n'est jamais seul, parce que j'ai cru comprendre que tu l'admirais parce qu'effectivement, elle avait beaucoup d'amis et toi, tu n'en avais pas. Mais est-ce que c'est des relations sincères? C'est une question à se poser aussi. Mmh. Et comme on dit, on n'est jamais seul, on est avec soi-même. Et on doit se traiter comme effectivement on traite son meilleur ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un meilleur ami, une très bonne amie, la façon dont vous êtes empathique avec elle, la façon dont vous la traitez, c'est de cette même manière que vous devez vous traiter, vous et moi, en tant que personne. Et c'est ça, changer la relation que vous avez avec vous-même. Ne vous dénigrez pas, ce qui est fait est déjà fait. Ne vous accablez pas de reproches. Actuellement, la seule chose à faire, c'est d'en tirer les leçons et maintenant d'essayer de prendre une autre direction.
Et c'est vrai qu'on entend ces témoignages et on se dit que toutes ces femmes ne méritent pas pareil personne à leur côté. Merci beaucoup Emma pour votre témoignage. Très bonne journée à Port-au-Prince. On prend maintenant la direction du Congo-Brazzaville et avec en ligne Josiane. Josiane, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous, deux expériences douloureuses, Josiane. C'était d'abord avec le père de vos enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec ce monsieur ?
Avec le père de mes enfants, j'avais 22 ans. Au départ, c'était un frère de l'église qui venait me prendre à la maison pour aller prier. À force d'être habituée, on est sortis ensemble. Au départ, c'était bien. Et après, le premier enfant qui est vite arrivé, le second est venu aussi une année après. Après, c'était des violences. Je n'avais plus de liberté. Quand je sortais, il me suivait par derrière, il me pillait.
Ça a commencé à un moment précis, il y a eu un événement où c'est venu, ça s'est installé petit à petit.
Ça s'est installé petit à petit, je ne me rendais pas compte. Il était souvent présent dans ma vie. En ce moment, j'avais un peu des difficultés. Il est rentré dans ma vie, il ne me parlait que de prière.
Ouais.
Il me parlait d'amour. Bon, il était un prédicateur, je ne sais pas comment, un évangéliste.
Et à un moment donné, vous lui avez dit, j'en ai un petit peu marre que tu me suives partout comme ça ou vous laissiez faire ?
Je ne me rendais pas compte. Petit à petit, il est toujours présent.
Mais vous avez parlé de violence tout à l'heure quand même. Vous vous rendiez compte
oui,
que...
Oui, après, au départ, c'était bien. Et après, quand on a eu un premier enfant, le deuxième est vite arrivé une année après. Et après, c'était des violences. Hein. C'était des violences maintenant verbales, des insultes. Après, quand tu voulais sortir, il ne voulait plus que tu sortes. Il faisait tout, mais les courses, il les faisait seul. Il préférait que je reste à la maison. Il dit, reste à la maison, tu gardes les enfants, il va aller faire les courses. Mm. Quand nous sommes à deux, je ne pouvais pas saluer quelqu'un dans la rue. Quand tu salues quelqu'un dans la rue, si vous revenez à la maison, je me sentais comme si j'étais en train d'être jugée sans cesse.
Il a levé la main sur vous ?
Des interrogatoires.
Oui.
Après, il a commencé à lever les mains sur moi, me battre. Une fois, je suis allée à la fête avec une cousine. Quand je reviens, il a pris carrément un arbuste qu'il avait coupé. Mm. Il s'est mis à me fouetter tout autour des fesses. Et j'avais la peau complètement abîmée.
Vous êtes allée à l'hôpital à ce moment-là ?
Non, je ne suis pas allée à l'hôpital. Après, il devenait gentil, il se demandait des excuses, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Tu es ma femme, Dieu me l'a montré en rêve, c'était des histoires comme ça.
Ouais.
Téléphone qu'il confisquait. Surtout quand je sortais, je demandais la permission d'aller à la fac. Au retour, il commençait à humer mon corps jusqu'au sous-vêtement. Et après, il essayait, si j'étais partie voir ailleurs.
La suspicion, vraiment, ça s'est terminé comment votre histoire ?
J'étais obligée de le fuir carrément. À tout moment, constamment, j'étais toujours sur mes gardes. Je ne savais pas si le matin ça se passait bien, ça peut se passer à midi, soit le soir. Parfois, je suis réveillée par les gifles parce qu'il a retrouvé un numéro de téléphone.
C'est insupportable ce que vous racontez, hein, Josiane. C'est atroce.
Insupportable,
je vous le dis.
Et après, une fois ma mère m'appelle, j'ai dit, je dois aller voir ma mère. Et il m'a dit, tu sais ce qui va t'arriver si tu traînes dehors. Et après, j'avais décidé de plus rentrer à la maison. Et quand il m'appelait, il me dit, il faut porter le gilet pare-balles.
Ah, il vous a menacé de mort.
Oui.
Donc c'est vraiment un sale type.
Et il commençait à faire souffrir les enfants moralement. Quelquefois, il leur dit, vous n'êtes pas mes enfants, allez-y demander à votre mère, qui est votre vrai père. Et ça avait vraiment traumatisé les enfants. Maintenant, les enfants ont grandi. Quand il s'approche d'eux, c'est pour parler du mal de moi. Il dit que c'est ma faute, qu'on s'était séparés, que les enfants n'ont pas eu le temps de vivre à ses côtés. Donc, il les retourne contre moi.
Les enfants, ils ont quel âge ?
Le premier a 26 ans.
Oui.
La seconde...
Ils savent la personne que vous êtes, Josiane. Ils savent que la vérité est de votre côté.
Ça fait 17 ans, les enfants me culpabilisent le fait de ne pas avoir grandi à côté de leur père. Et c'est quand ils les rencontrent, ils disent que c'est la faute de votre mère, c'est elle qui a fui, qui a fait que je ne m'occupe pas réellement de vous.
Vous aviez été menacée de mort, vous les avez protégés et vous avez sauvé votre peau aussi. Donc ces reproches, je ne suis pas là pour juger, mais franchement, il faudrait avoir une bonne explication en famille pour remettre les choses au bon endroit. Professeur Paplamine Faye, est-ce que ce que décrit notre auditrice de Brazzaville, c'est une relation toxique où on a largement dépassé la relation toxique et là, on est non seulement dans la maltraitance, mais on est dans quelque chose qui peut se terminer devant la justice ?
Mais là, moi, je vais même dire qu'on est dans quelque chose qui ressemble à de la démolition, carrément. Démolition psychologique, démolition physique, c'est complètement inacceptable. Ça me fait penser que, et c'est là où la société parfois peut être extrêmement violente, il y a des gens qui occupent de très hautes fonctions, c'est de très grands déséquilibrés, de grands malades qu'on aurait dû enfermer. Sauf que, étant donné que les gens ne vivent que d'image, comment la personne se présente, comment elle parle. Souvent, c'est des gens qui parviennent à passer à côté parce qu'ils ont bien compris ce que les gens, la société en général, attend d'eux. Mmh. Et ils le font prévaloir, ils en parlent. Lui, c'est un prédicateur, je ne sais pas.
Ouais.
Méfiez-vous des apparences, l'habit ne fait pas le moine du tout. Et il va utiliser des phrases, effectivement, qui vont rassurer, parce que Josiane a vécu peut-être à un moment donné des difficultés. Lui, il était là présent et il lui disait exactement ce qu'il voulait entendre. Et ça l'a rassuré et ça a créé peut-être justement de l'attachement. Et quand il a commencé ses comportements très déstabilisants, il n'a pas peut-être pu partir, peut-être a commencé à se faire des reproches. C'est comme ça toujours que ça marche. Il y a une phase où justement on commence à s'attacher et après on commence à vous faire des reproches, on vous déstabilise. On devient beaucoup plus méchant. Et au lieu de vous dire, est-ce que cette personne est normale, la seule question que vous vous posez, c'est vous demander qu'est-ce que vous avez pu faire pour que ça n'aille pas dans le bon sens. Peut-être que vous devrez corriger, peut-être que vous n'avez pas respecté telle règle. C'est des règles qu'ils instaurent, qui sont souvent implicites. Et dès qu'il y a un écart par rapport à une règle, là, vous subissez leur violence, vous continuez justement à vous remettre en question. Et c'est comme ça que les femmes commencent à perdre confiance en elles, à perdre leur estime d'elles-mêmes, à ressentir de la honte, au point justement de ne pas en parler à l'extérieur et à s'enfermer dans quelque chose de très pathologique. Mmh. Et c'est des gens aussi qui n'ont aucune forme d'empathie, même vis-à-vis des enfants. Et ça, les femmes ont peut-être du mal à le croire au début, mais en réalité, c'est des gens qui n'aiment pas leurs enfants. Ils s'en servent justement pour vous mettre la pression, pour vous faire du chantage, pour vous culpabiliser davantage. Et ça ne risque pas de s'arrêter. Mais ce qui est important, c'est vous, ce que vous faites par rapport à vos enfants. Parce que peut-être dans un premier temps, leur convaincre va être un peu difficile. Mais tant qu'ils n'ont pas vécu suffisamment avec leur père, ils ne peuvent pas le comprendre forcément.
Josiane, vous avez vécu des choses extrêmement douloureuses. Vous avez pensé un jour à consulter, à en parler, voire même, il y a des médiations aussi, des gens de confiance de l'extérieur qui pourraient aussi au moins parler à vos enfants, à vous-même, vous réunir pour dire « Mais regardez ce qu'a subi maman, c'est intolérable. On ne peut rien aujourd'hui lui reprocher à cette maman. » Vous le pensez Josiane, vous-même que vous n'avez rien à vous reprocher, Josiane ?
Non, j'étais en fait la cible parce que je suis de nature très gentille, douce. En fait aussi, il y a le côté aussi, même de l'argent. Je me rappelle qu'il prenait tout mon salaire. Et j'étais la rivale de sa défunte mère, que j'étais incomparable à elle. Et qu'il n'avait pas le droit de dépenser les sous pour moi et pour mes enfants parce que sa défunte mère n'a pas profité de son argent lorsqu'il travaille.
Professeur Paplaminfay, vous parliez tout à l'heure de l'expérience ou de la tentative de démolition en règle, c'est vraiment ça.
Oui. Franchement, ça, c'est pire que les manipulateurs dont on parle habituellement et qui est très vulgarisé. On parle des pervers. Ça, c'est des pervers de caractère. C'est des gens qui vous détruisent. C'est soit la morgue ou l'hôpital. Vous risquez d'être complètement malade si vous ne mourrez pas, parce que c'est un stress qui est là au quotidien, qui est chronique. Et finalement, vous risquez même de développer des maladies rhumatismales, vous développez des maladies cardiovasculaires, vous développez des maladies de peau. Votre santé en prend un grand coup. Quand vous constatez ce genre de comportement, après une période où vous avez eu de la légèreté, de la confiance, à partir du moment où ça commence à devenir lourd et difficile au quotidien, dites-vous que vous êtes en présence d'une personne qui ne vous fait pas du bien. Quel que soit ce que cette personne a vécu, ça ne justifie pas la violence qu'il vous fait subir. Parce que très souvent, c'est des hommes qui arrivent aussi, qui se victimisent beaucoup, qui parlent de leur passé traumatique, les difficultés dans leur enfance, le fait qu'ils ont perdu tôt leur père. Et finalement, la femme est tellement dans l'apitoiement, tellement dans la compassion qu'elle lui trouve tout le temps des excuses. Ça ne devrait pas passer.
Et là, avec ce que nous a raconté Josiane, on l'a bien compris, hein, professeur Paplaminfay, aucune excuse. On remercie beaucoup Josiane pour son témoignage. Et c'est maintenant à Abidjan, Côte d'Ivoire, qu'on va retrouver une toute dernière auditrice en ligne parce que le temps passe. C'est vous, Ami, bonjour.
Oui, bonjour.
15 ans de mariage, séparés depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce que vous décririez cette relation ?
C'était très difficile. Par moments, je me demande en fait comment j'ai réussi à tenir aussi longtemps. Et puis le soulagement d'avoir pu sortir en fait de cette relation. Et ouais.
C'était quoi ? C'était des concessions sans cesse ? C'était quoi ?
Oui, beaucoup de concessions parce que quand on vient de se marier, on est dans la concession, on est dans le compromis. Donc beaucoup de concessions, beaucoup d'excuses qu'on se donne et qu'on donne à l'autre aussi. Donc beaucoup de choses qu'on laisse passer. En tout cas me concernant, au fur et à mesure, c'est d'avoir l'impression qu'en fait ça ne suffisait jamais. Quoi que je fasse ou quoi que j'accepte, que je laisse passer, il y avait toujours autre chose en fait, qui venaient et ça ne suffisait jamais.
Des critiques permanentes, une insatisfaction permanente. Quand vous dites quand ça va trop loin, quand ça n'allait pas, ça voulait dire quoi concrètement?
C'est arriver à un moment où avoir un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà. Et le quotidien devient de plus en plus difficile parce que on a l'impression d'être sans cesse retranché dans ses limites. Et venant donc de la part de l'autre personne, c'était ça, c'était des critiques sans cesse, beaucoup de plaintes.
De la violence, vous dites des obligations, on va dire pudiquement, jusque dans la chambre à coucher?
Dans la chambre à coucher, oui.
Et vous avez décidé que ça allait s'arrêter, comment ça s'est passé?
J'ai parlé à un ami qui est dans le corps médical, à qui j'avais raconté une anecdote, et qui m'a dit que c'était pas normal, en fait, que les choses ne sont pas censées se passer comme ça. Et ça m'a interpellée, en fait. Donc, je lui parle également du malaise, du fait que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans forcément réussir à mettre le doigt dessus. Et en essayant de trouver des solutions, je me suis beaucoup documentée, en fait. J'ai fait des recherches, j'ai beaucoup lu, et je me suis rendu compte que le problème ne venait pas forcément de moi. Peut-être que c'était moi, finalement, la victime, et pas la personne que j'avais en face de moi, en fait.
Vous lisiez quoi? Vous alliez vers quelle source d'information? Excusez-moi, ami.
Je fais des recherches un peu en ligne. Je suis allée sur des forums de psychologie, de discussion, de femmes, pour regarder ce qui se disait et puis voir est-ce qu'il y avait des histoires qui étaient similaires un peu à la mienne. Et puis, j'ai lu des livres de développement personnel.
Et vous avez compris que vous n'étiez pas toute seule?
Et je comprends que je ne suis pas seule et que le malaise que je ressens, en fait, n'est pas uniquement dans ma tête, mais que c'est justifié.
Est-ce que c'est lui qui a essayé de vous convaincre que le problème, c'était vous?
Oui, parce que pour lui, il n'y a pas de problème, en fait. À un moment donné, je lui dis que ça ne va pas très bien dans notre couple et qu'il serait bon qu'on en parle. Et il me dit que lui n'a aucun problème et que s'il y a un problème, ça vient de moi. Quand il constate, parce que j'achète des bouquins, donc les livres qui traînent un peu, il me dit que je me fais des films, je lis des livres et je pense que c'est la réalité. Et je me fais des films, en fait, mais qu'en fait, tout va très bien. Et que c'est juste moi qui suis en train de chercher la petite bête. C'est le sentiment aussi que mon entourage me donne, en fait, en me disant que mais non, tout va bien.
Vous n'étiez pas soutenue.
Il est très bien, pourquoi tu te plains?
Et vous avez tourné la page quand même. Cette force, vous l'avez trouvée où? Il y a les livres, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Cet ami qui vous a conseillé, qu'est-ce qu'il y a eu pour justement que vous puissiez rebondir?
On va dire des actions qui sont allées... J'ai été vraiment retranchée dans mes limites. Et quand la violence est devenue physique, pour moi, c'était la limite à ne pas atteindre et je ne me sentais plus en sécurité. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, si je ne me sens pas en sécurité, c'est qu'il faut que je parte. J'ai eu l'impression à un moment que si je restais, c'est un peu comme ce que le professeur disait tout à l'heure, j'allais devenir folle en fait. Et donc, il fallait faire un choix, c'était lui ou moi. Donc, soit je restais pour lui le satisfaire et à ce moment-là, je me perdais totalement, soit je me choisissais moi et il fallait que je parte pour moi et pour mes enfants surtout.
Malgré tout, vous avez la crainte de renouer avec une personne toxique? Vous êtes méfiante aujourd'hui?
Énormément. C'est ma hantise. Parce que je me demande, c'était pas comme ça au début, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu comme ça au début, et je me demande, qu'est-ce qui fait qu'une relation devient toxique? Est-ce que la personne a changé, ou est-ce qu'il était comme ça depuis le départ et il s'est juste révélé? Est-ce que le naturel est revenu? Est-ce que moi, j'ai une part de responsabilité aussi? Et donc, oui, aujourd'hui, ma hantise, en fait, c'est de retomber sur un homme qui pourrait me faire revivre la même chose. Et je suis très craintive à ce sujet-là.
On comprend quand on entend votre expérience, peur de retomber dans un piège, professeur Pape Lamine Faye. C'est quelque chose que l'on a entendu dans plusieurs témoignages.
Oui, peur de retomber. Il arrive qu'on va y retomber, on va rencontrer des gens, on ne les connaît pas a priori. Et effectivement, si les masques tombaient, on n'allait jamais se mettre avec eux. Ce n'est pas une faute que de rencontrer ce genre de personnes. Mais je pense que c'est une faute que de rester dans cette relation une fois qu'on se rend compte que la personne ne nous fait pas du bien, qu'elle est extrêmement toxique et qu'elle met même notre santé en danger. Parce que c'est des personnes, comme je le dis, ils se présentent sous un masque serviable, très sympathique, où ça vous donne envie d'être là. C'est des gens qui vous comblent parfois avec des compliments. Ils sont toujours là, très soutenants. Mais à un moment donné, ça peut basculer et devenir quelque chose de beaucoup plus négatif où vous avez le sentiment de ne jamais bien faire les choses.
Avec tout le respect que je vous dois, professeur, je vais vous contredire, parce que là, quand même, il y a la pression familiale. Même si Ami va avec tout son cœur en disant « il me maltraite, il est méchant », on lui dit « reste ma fille, c'est un gars super », c'est pas facile de retourner non plus à la maison quand on risque de se retrouver toute seule à la porte.
Oui, on est en phase, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est un conseil que je suis en train de donner. Ça veut dire même, quel que soit... D'ailleurs, les familles le disent. Généralement, c'est vous qui êtes dans l'intimité, c'est vous qui savez ce que vous êtes en train de vivre. Quand vous vous rendez compte que votre santé est en train de se dégrader, que vous êtes en train de développer des maladies endocriniennes comme le goitre, que vous faites de l'hypertension, que votre santé se dégrade plus que d'habitude, mais vous savez que cette relation ne vous fait pas de bien. Et généralement, vous allez à l'hôpital et votre conjoint essaie de vous faire croire que c'est vous qui êtes malade, mais en réalité, vous êtes malade de lui. C'est pas le contraire. Il faut s'accrocher, quel que soit ce que la famille est en train de dire. La famille, habituellement, elle est là juste pour l'image, le social. Ma fille est mariée, elle est dans le ménage. Il ne faut pas qu'elle divorce parce que c'est un peu mal vu. Mais quand vous êtes en train vraiment de sacrifier votre santé, mais il y a des raisons vraiment d'en sortir. Et ces gens, c'est un peu pour revenir au conseil que je donnais à Ami, peur de les rencontrer, ça ne doit pas vous empêcher de vivre. C'est qu'à partir de maintenant que vous avez vécu cette expérience, il faut vous rendre compte que ça ne vient pas seulement de vous. Ces genres de personnes, ils reportent tout le temps la responsabilité de l'échec de la relation sur vous. Mais dites-vous qu'une relation, ça se fait toujours à deux. Je vais rencontrer des gens qui vont bien se présenter, mais à partir du moment où je sens une incohérence entre ce qu'ils me disent et ce qu'ils font, j'ai le droit de m'arrêter, de stopper la relation pour la questionner et de voir si je continue ou je dois en sortir. Et c'est là où j'ai dit, cette méfiance, oui, certes, elle est là parce qu'effectivement, il y a eu un traumatisme, mais... on doit s'efforcer d'avancer malgré la peur. On va rencontrer des gens, mais maintenant, on va se donner l'autorisation d'arrêter la relation, quelle que soit la pression que l'on est en train de subir. D'autant plus que vous l'avez vécu une fois, ça a été très difficile. Souvent, c'est les premières fois qui sont difficiles parce qu'on n'est pas conscient du processus. Il faut toujours un tiers extérieur, comme dans votre cas, quelqu'un du corps médical qui vous alerte que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas quelque chose de normal. À partir de là, vous avez commencé à vous poser des questions, à lire des livres et à comprendre qu'en réalité, vous n'êtes pas une coupable comme lui a essayé toujours de vous l'inculquer, mais vous êtes une victime d'une relation qui est toxique.
Ami, vous en pensez quoi pour conclure ?
C'est rassurant. Je suis contente de m'en être sortie. Je connais peut-être les signaux maintenant et, comme l'a dit le professeur, me donner l'autorisation justement d'arrêter parce que j'ai moins cette pression sociale là maintenant que j'avais avant. Donc oui, essayer d'être moins méfiant.
Professeur Paplamine Faye, un dernier mot ?
Oui, habituellement les familles ont des fantasmes par rapport au divorce. Mais quand ils se rendent compte que vous avez pris votre courage à deux mains, vous avez divorcé et que vous êtes redevenu la personne qu'ils avaient auparavant devant eux avant le mariage, parce que généralement les femmes qui vivent ces relations, mais à un moment donné, elles sont presque éteintes. Et les gens qui les rencontrent des années après se rendent compte qu'il y a eu un changement. Mais continuez, battez-vous, sortez de la relation, la famille se rend compte finalement que vous êtes mieux que ce que vous étiez dans l'intérieur de cette relation.
Ils vont retrouver leur vraie amie, celle qui était là à l'origine et qu'ils aiment tellement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Ami. Merci, un grand merci à vous, professeur Paplamine Faye, pour votre bienveillance, toutes ces réponses à nos auditrices. Très bonne journée à vous. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Kalédek, Laurent Philippot et Didier Bleu à Paris et à Dakar, Alassane Bireba. Lundi dans Priorité Santé, à l'occasion de la Journée mondiale pour la santé bucco-dentaire, on va parler de l'hygiène des dents. Plaques dentaires, gencives sensibles, comment lutter contre les caries? Pourquoi faut-il consulter en cas de douleur? Des spécialistes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.